Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec Nicolas Bonanni autour de son livre « Que défaire pour retrouver des perspectives révolutionnaires » paru aux éditions du Monde à l'envers, le 12 mai 2022 à la librairie Terra Nova.
Bonjour, merci d'être venu écouter Nicolas Bonanni, ici présent, donc, qui est un des animateurs de la petite maison d'édition indépendante grenoise qui s'appelle Le Monde à l'envers, qui ont fait plein de super bouquins depuis des années sur pas mal de thématiques critiques du capitalisme, de l'industrie et autres choses semblables. Et qui font des jolis livres aussi avec des couvertures sérigraphiées. Faite par Nicolas, notamment, enfin, entre autres. Et Nicolas, il a déjà publié différents textes. Il a publié un texte sur l'extrême droite française il y a quelques années qui s'appelait L'amour à trois. Il y a une espèce de mise en scène avec quelqu'un qui est devenu tristement célèbre depuis, comme Éric Zemmour, Alain Soral et le troisième, c'est
Alain Benoît,
voilà, la tête pensante de la nouvelle droite et du combat culturel de la nouvelle droite depuis les années 70, en fait, depuis le GRES, le groupe de recherche et d'études sur la civilisation européenne. Voilà. Il fait un livre qui s'appelait Des souris, des moutons et des hommes.
Ouais, c'était une brochure, c'était pas un livre.
C'était petit livre, voilà. Mais et puis là.
Des moutons et des hommes. Je sais pas ce que t'as dit, mais des moutons et des hommes.
Ouais, des moutons et des hommes sur le puçage électronique des animaux et peut-être un jour des humains aussi. Et il a publié un petit livre qui s'appelle Que défaire pour retrouver des perspectives révolutionnaires. Et où il essaye de réfléchir à comment on pourrait s'organiser à gauche, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de sortir du marasme dans lequel on est pris et pour essayer de retrouver des perspectives de changement social. Donc c'est un thème intéressant et important. Et c'est surtout une tentative d'essayer de rediscuter un petit peu ensemble stratégie politique, perspective politique pour retrouver un petit peu de l'air dans ce climat assez étouffant dans lequel on est en train de s'enfoncer. Et je lui laisse la parole.
Merci Aurélien, puis merci à tous et à toutes d'être là. Comme tu viens de le dire, là, moi, ce livre-là, ça fait un petit bout de temps que je voulais l'écrire. Ça fait, je crois, plus de 5 ans, peut-être 6 ans que j'avais le projet d'écrire ça. Parce que je fais le constat qui, à mon avis, est partagé par beaucoup de gens à gauche, ou enfin, par des personnes qui ont un désir d'égalité, de justice, d'émancipation, qu'on est souvent, souvent coincé. On a l'impression d'être dans des postures de résistance, de résister tant bien que mal à ce qui nous arrive. En plus de patiner, quoi, de résister tant bien que mal, ça veut dire que plein de fois on n'arrive pas à résister, en fait. Le pari que je fais, enfin l'hypothèse que j'explore, c'est de me dire notre problème là, c'est qu'on est cantonné dans une posture de résistance et qu'il faut qu'on travaille ou qu'on retravaille la question des perspectives qu'on se donne et qu'on trouve une articulation entre les résistances dans lesquelles on est au quotidien, la limitation de la casse, et un projet de transformation sociale désirable dans lequel on se retrouve vraiment, quoi. Parce que si on abandonne, si on continue à être dans cette absence de perspective, on va toujours rester dans la logique du moins pire. Et ça s'incarne de plein de façons. Et en fait, ça déprime tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est très répandu, d'après mon constat personnel, dans les milieux contestataires, les milieux militants. C'est cette sorte de désespérance, un petit peu presque qui vire au fatalisme social. Parce que on a beau passer des heures à coller des affiches, distribuer des tracts, militer, faire des réunions, aller dans des manifestations, etc. On a l'impression un petit peu de hurler dans le désert. D'une part, parce que le pouvoir, globalement, applique plutôt les réformes qu'il a prévu de faire. Là, par exemple, toute l'histoire de la dérégulation du code du travail ou des retraites, c'est symptomatique de ça. Mais aussi parce que on a parfois l'impression que nos concitoyens, nos compatriotes, je sais pas comment on dit, les autres gens qui composent la société avec nous, en fait, sont sourds aux revendications qu'on porte. J'en parlais avec un militant de la France Insoumise là il y a quelques années qui me disait ah ouais mais ce qui est terrible c'est que les gens ont l'impression qu'on peut plus changer la société, autogérer la société. Alors moi c'est un objectif que je partage là, cette question de socialiser les outils de production, socialiser les moyens de production, socialiser le pouvoir, socialiser les décisions, mettre toutes ces choses là en commun et pouvoir le faire ensemble. Mais ce que je m'étais dit en discutant avec ce camarade là, c'était en fait peut-être que les gens ils ont pas complètement tort en fait à l'heure actuelle, vu la complexité de la société dans laquelle on est, de s'imaginer qu'on ne peut pas se la réapproprier si facilement que ça. C'est-à-dire qu'on est dans une société mondialisée, bureaucratisée, industrialisée. On n'est pas dans une petite communauté villageoise où il y aurait un chef méchant qui suffirait de virer pour reprendre un peu les rênes. On est dans une société qui fonctionne à une échelle géante. On est dépendant de réseaux d'approvisionnement mondiaux, intercontinentaux. On est plongé dans une dépendance en fait très profonde à un système qui nous dépasse complètement et où reprendre la main dessus, quelqu'un de raisonnable peut assez facilement se dire que c'est compliqué quand même, quoi. Pour cette dépendance là on la voit au niveau là moi je trouve là où elle s'illustre le mieux c'est au niveau de l'alimentation et de l'énergie. Pour l'énergie là c'est très sensible en ce moment avec la crise en Ukraine où le fait qu'il y ait deux pays situés à plusieurs milliers de kilomètres de chez nous qui se déclarent la guerre, enfin bon personne n'a déclaré la guerre à personne mais bon en tout cas il y a Poutine qui fait la guerre à l'Ukraine. En fait, on voit que nous, on est dépendant pour notre chauffage de l'hiver prochain de ce qui se passe là-bas. Les réserves de blé, la production de blé ukrainienne étant en bonne partie dédiée à être importée en Europe, on voit aussi que sur le prix des denrées de base en France, il y a un impact. Donc, moi, mon constat de base, c'est de me dire dans quel réseau de dépendance matérielle on est pris là, nous, en tant que Français, que gens du peuple en France, on est pris dans un réseau de dépendance très très profond, qui n'est pas un réseau de dépendance superficielle, qui est un réseau de dépendance très profond, dont on ne peut pas faire abstraction. Et il faut penser cette dépendance pour réussir à imaginer les voies de s'en détacher. C'est-à-dire que dans les imaginaires de gauche, enfin c'est même plus que les imaginaires, dans les stratégies qui ont été proposées à gauche depuis un siècle, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'idée de la grève générale, de bloquer l'économie, d'imposer aux capitalistes un rapport de force. Je citais ça hier aussi, là il y a une nouvelle de Jack London qui s'appelle Grève Générale. Je ne sais pas si vous avez lu ça, mais c'est super bien à lire parce que ça se passe en 1910 peut-être. Et le syndicat décide le blocage du port de San Francisco. Pour avoir de la bouffe, il faut aller au bureau du syndicat, il faut présenter sa carte du syndicat. Et puis on suit toute l'histoire depuis le point de vue d'un bourgeois qui au début prend l'affaire un petit peu à la légère. Puis après tous ses domestiques se cassent un par un. Puis après, il a vraiment plus à bouffer. Alors, il part avec des copains à lui dans la campagne. Ils essayent de capturer une vache pour la bouffer. Puis, ils n'y arrivent pas. C'est vraiment la bérésina pour eux. Et du coup, bah, c'est vraiment une nouvelle qui a été imprimée à des dizaines de milliers d'exemplaires par le syndicat anarcho-syndicaliste de l'époque aux États-Unis pour un peu montrer aux prolétaires de l'époque que c'était possible de s'organiser et de mettre la pression à la classe possédante. Bon, il y a beaucoup d'espoirs qui ont reposé sur des choses comme ça. Et moi, je me pose réellement la question de, aujourd'hui, est-ce qu'on est dans les mêmes conditions que, bah, par exemple, dans les années 1900, 1910, pour imaginer des choses comme ça? C'est-à-dire, tout simplement, avec l'exemple que je donnais là, s'il s'agit de présenter une carte du syndicat pour avoir à bouffer, moi, personnellement, je ne suis pas syndiqué. Je ne sais pas dans la salle combien d'entre vous sont syndiqués, mais le taux de syndicalisation en France, c'est de l'ordre de 7%. On ne peut plus tout à fait s'organiser comme ça. Ou alors, on sait que pour faire grève, il y a quelque chose qui permet de faire grève, c'est d'avoir un petit peu des ressources, soit pécuniaires, soit d'autoproduction alimentaire. Bon, bah, on sait que il y a de moins en moins de gens qui sont autonomes, ou enfin, en tout cas, qui ont un degré d'autoproduction alimentaire. C'est quelque chose qui est très fortement en baisse parce que de plus en plus de gens en France, en Europe et dans le monde habitent en ville. On est de moins en moins relié à des capacités d'autoproduction alimentaire. Du coup, ça nous place dans une situation de dépendance vis-à-vis de ce système capitaliste et bureaucratique qui est de plus en plus important. Et je pense réellement c'est important de penser ça si on veut imaginer les façons de se débarrasser du capitalisme. Si, parce que si on en fait abstraction, ben, on plane dans le ciel. Et si on a besoin de faire ça pour comprendre pourquoi est-ce que la plupart des gens ne se politisent pas. Parce que moi, je peux comprendre que face à un mot d'ordre de tout bloquer, ben, quelqu'un dise, bon, ben, si on bloque tout et qu'il n'y a plus de carburant et que les supermarchés sont vides, comment est-ce que je vais chercher mes gamins à l'école si je ne peux plus remplir l'essence de la voiture? Et comment est-ce que je bouffe si les supermarchés sont vides? Alors, pour moi, cette histoire de partir du niveau de dépendance dans laquelle on est, c'est juste une base. C'est pas être pessimiste, c'est et notamment c'est pas être pessimiste parce que en fait derrière ça, ça produit pas que de la résignation, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de gens qui font face à cette situation. Alors il y a des gens qui se résignent, ça existe bien sûr, il y en a plein, mais il y a aussi plein de gens qui s'adaptent et qui adaptent leur forme de lutte. Ça c'est une idée assez simple qui a été développée par pas mal de révolutionnaires. C'est que ben, si on veut comprendre les formes de lutte dans une société, et ben, les formes de lutte en fait elles sont dépendantes du système dans lequel on est. Les formes de lutte dans le capitalisme de 2022, c'est pas les mêmes formes de lutte que dans le capitalisme de 1917. Et du coup, ben, y en a des luttes aujourd'hui, mais peut-être c'est plus les mêmes que celles que le mouvement révolutionnaire a théorisées dans le courant du 19e siècle ou dans le courant du 20e siècle. Elles sont parfois plus dures à déceler, même parfois on a du mal à leur accorder le terme de lutte. Y a une série de choses, par exemple, qui reposent sur la désertion. Y a ce phénomène-là qui est de plus en plus prégnant, même s'il concerne une fraction minoritaire de la population, évidemment, c'est tous les diplômés, les Bac+5, en particulier les ingénieurs, qui refusent le destin qui leur était tracé, qui refusent les boulots sans sens auxquels ils étaient destinés, et qui se cassent, souvent qui se cassent à la campagne, faire paysan-boulanger, charpentier ou autre microbrasserie là. Mais en fait il y a vraiment quelque chose autour de ça qui me paraît tout à fait significatif, de gens qui ne se reconnaissent pas, une sorte de on se reconnaît pas dans le destin qui nous a été tracé. Je dis c'est pas tout à fait moi, mais il y a un certain nombre de gens qui se reconnaissent pas dans le destin qui leur a été tracé et qui décident de se désaffilier de cette société. Il y a eu encore là, je sais pas si vous lisez Reporter, il y avait un article qui a dû être publié hier là sur en début de semaine, une dizaine d'étudiants de Agrotech Paris, je crois que ça s'appelle, qui une école de formation d'ingénieurs agronomes quoi, qui le jour de la remise des diplômes ont dit on se barre quoi, qui ont lu un discours pour expliquer en quoi l'agro-industrie telle qu'elle est, en quoi l'agro-industrie en fait est vraiment quelque chose de nuisible et comment eux n'avaient pas du tout envie de participer à ça, tenaient à le dire publiquement et tenaient à dire qu'aller participer à des ZAD ou à des initiatives même individuelles de construction d'alternatives leur paraissait beaucoup plus désirable. Il y a ce mouvement-là qui est en plein développement. Qui concerne, je l'ai dit, une minorité de la population et qui est parfois C'est pas souvent hein, que les gens font des déclarations à 10 le jour de la remise des diplômes qui donnent lieu à des articles, mais moi j'en connais un certain nombre, vous aussi peut-être, de gens qui sont dans cette dynamique-là. Simplement, la conflictualité, elle est parfois un peu absente de ces choses-là. Il y a d'autres formes de lutte actuelles qui ne rentrent pas non plus dans les cases de lecture de la gauche, c'est-à-dire de la grille de lecture syndicale ou politique, et qui sont là très nettement conflictuelles. Il y a l'exemple des Gilets jaunes qui là était très conflictuel avec toute la convocation d'une imagerie révolutionnaire, des scènes pré-insurrectionnelles, enfin pas insurrectionnelles, mais en tout cas des scènes assez marquantes, y compris dans les quartiers bourgeois de la capitale. Et là, je l'ai dit, ça c'est les Gilets jaunes, ça rentrait difficilement dans les cases des syndicats. Moi, par exemple, dans la ville d'où je viens de Grenoble, entre la CGT et les Gilets jaunes, encore aujourd'hui, c'est pas simple, quoi. C'est pas simple pour plein de raisons, mais c'est c'est des manières de lutter, des manières de faire collectif, des manières de s'organiser pour la lutte qui sont difficilement reconnues par les mouvements de gauche tels qu'ils sont institués. Là j'ai mentionné les ingénieurs qui désertent et les gilets jaunes, il y a plein d'autres choses, j'ai mentionné aussi au passage les ZAD, mais en fait il y a toute une série comme ça là, de luttes qui n'existaient pas selon moi il y a 20 ou 30 ans, qui sont en pleine expansion, qui ont du mal à être appréhendées par le logiciel de gauche dominant, et qui à mon avis, il y a une sorte de continuum entre toutes ces luttes qui mériterait d'être analysées un peu plus en détail. Mais clairement, ça a pas la même, ça renvoie pas à la même imagerie révolutionnaire qu'une grève avec des ouvriers en bleu de travail qui viennent se mobiliser et puis qui séquestrent leur DRH ou qui lui arrachent sa chemise. Même si c'est très sympathique ça, c'est des luttes qui affichent parfois moins leur conflictualité, j'ai dit. Alors, je me suis posé la question d'essayer de comprendre pourquoi tous ces mouvements-là qui agitent la société et qui sont très dynamiques sont pas reconnus par les syndicats ou les partis politiques, ou en tout cas pourquoi eux, ils ont du mal à appréhender ça. Et moi, la réponse que j'ai trouvée, c'est quand même toute une partie de l'héritage marxiste qui imprègne la gauche française, européenne et mondiale. Faut savoir que le socialisme au 19e siècle, avant que le marxisme apparaisse, il y avait déjà des courants socialistes qui étaient de plein de natures différentes. Il y avait le saint-simonisme, le fouriérisme, l'owenisme. Plus tard, il y a eu l'anarchisme. Et au bout de quelques décennies, en fait, le marxisme, qui est une théorie particulière de comment est-ce qu'on fait la révolution, comment est-ce qu'on met en commun les moyens de production, comment est-ce qu'on socialise la société, le marxisme est devenu un peu hégémonique. Donc dans le bouquin là, je me livre à un petit travail d'essayer de raconter en fait quelle conception du communisme le marxisme porte. Le marxisme, en tout cas dans la version majoritaire qui a été développée après, notamment par Lénine, par Trotsky, par Engels aussi, le collaborateur de Marx. Et en fait, moi ce que j'en ai compris réellement, c'est que la version du communisme à la sauce de ce qui s'appelle le matérialisme historique, là, cette version-là du marxisme, c'est que le communisme, c'est une réalisation du capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est une société où règne le profit et l'intérêt à court terme. C'est une société qui n'est pas rationnelle, et ce que les marxistes disent, c'est qu'il faut rendre cette société rationnelle parce que le problème, c'est qu'elle n'est pas rationnelle. Dans l'histoire, comme elle est racontée par ces marxistes, on passe par toute une série de stades. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le stade féodal, et puis ensuite, progressivement, il explose, on passe au stade capitaliste, on est dedans. Puis au bout d'un moment, dans le stade capitaliste, les machines, les forces productives, elles grossissent, il y en a de plus en plus. Le capitalisme, qui n'est pas rationnel, n'arrive pas à les gérer. Il y a de plus en plus de contradictions, et à un moment, sous le poids de ces contradictions, le cadre social, le capitalisme explose, et on passe au stade d'après, qui est le communisme. Le communisme, c'est une adaptation sociale au niveau de machinisme qui existait avant. ce qui fait que il y a beaucoup de marxistes qui se sont revendiqués de ça explicitement là, qui ont inscrit vraiment le communisme comme une suite du capitalisme. Il y a une citation de Lénine là, enfin deux citations de Lénine que j'ai reproduites dans le livre. C'est donc c'est Lénine qui dit ça dans les années 1910. Le socialisme est impossible sans la technique du grand capitalisme conçue d'après le dernier mot de la science la plus moderne. Sans une organisation d'État méthodique qui ordonne des dizaines de millions d'hommes à l'observation la plus rigoureuse d'une norme unique dans la production et la répartition des produits. Ne sont dignes de s'appeler communistes que ceux qui comprennent qu'on ne peut pas créer ou instaurer le socialisme sans se mettre à l'école des organisateurs de trust. Car le socialisme n'est pas une invention, c'est l'assimilation et l'application par l'avant-garde du prolétariat qui a conquis le pouvoir de ce qui a été créé par les trusts. Bon, bah, dans cette situation, voilà, c'est très clair, quoi. Il y a une technique qui est développée. Là, il y a des usines, des machines, des codes-barres, des ordinateurs. Pas à son époque, mais depuis, les codes-barres et les ordinateurs sont arrivés. Et ce qu'il s'agit de faire, c'est de se débarrasser des patrons qui savent pas correctement gérer ça et de mettre enfin toute cette production au service de la population, au service du prolétariat. Il y a vraiment, dans tout un tas d'écrits de la tradition marxiste, cette vision du communisme comme une société hyper rationnelle, bien organisée, mieux organisée que le capitalisme, une société en fait qui planifie le capitalisme, et où le capitalisme ayant fait plein de promesses, il faut soit le forcer à tenir ses promesses en faisant pression sur lui dès maintenant pour obtenir de bons salaires, de l'électroménager, une partie de la richesse. Soit, si le capitalisme n'est pas capable de tenir ses promesses, et il le sera forcément au bout d'un moment, et bah, tenir les promesses à sa place en l'envoyant bouler et en établissant une société qui tienne les promesses du capitalisme à sa place. Bon, bah, d'ailleurs, il faut noter que c'est une vision très, très progressiste qui assimile complètement le progrès technologique et le progrès social, qui remet jamais en cause les innovations technologiques dans cette vision-là de l'histoire et de la société. C'est pas la peine de se demander si une innovation sociale elle est positive ou une innovation technologique elle est positive ou négative. Si une innovation arrive, c'est qu'elle devait arriver et elle nous emmène vers le plus, vers le mieux, vers la révolution, parce que l'histoire passe par une série de stades et on va arriver enfin au stade socialiste, puis au stade communiste. Donc cette histoire du communisme comme une planification ou une rationalisation du capitalisme, je crois que ça a entraîné tout un tas d'erreurs de lecture, parce qu'il y a, en fait, au final, il y a une sorte de confusion entre planification et communisme, ou entre rationalisation et communisme. Alors qu'on sait très bien que la planification, c'est pas forcément une mesure sociale, c'est pas forcément une mesure socialiste. Les penseurs néolibéraux, qu'on peut pas accuser d'être socialistes ou communistes, sont à peu près tous d'accord sur le fait que pour qu'un marché existe, pour qu'une société capitaliste fonctionne selon des règles néolibérales, il faut un État pour structurer le marché, pour l'encadrer au moins partiellement, pour fournir des infrastructures, pour fournir des routes, pour fournir des lignes de train, pour fournir une assurance sur certains secteurs de l'économie qui seraient pas rentables. Il y a besoin d'une planification de certains secteurs de l'économie non rentables, et il y a besoin d'un encadrement du marché pour que le marché fonctionne. Parce que, à part trois fous furieux de néolibéraux, personne ne croit qu'un marché autorégulé est possible. Donc ça, le fait que même les néolibéraux disent que la planification et l'encadrement du marché sont nécessaires, ça prouve qu'il ne faut pas confondre les deux et que toute planification n'est pas un avant-goût, une préfiguration du socialisme. Mais si on est dans une conception comme ça, si on est dans la conception que je viens de décrire d'un certain marxisme, bon, bah, ça paraît en effet logique de faire là ce qui se fait ces dernières décennies pour changer le monde. Ben, de faire des luttes syndicales et des luttes politiques, c'est-à-dire des luttes pour obtenir une amélioration, pour demander au capitalisme de tenir ses promesses, comme je le disais, demander une participation aux gains de production, et surtout de tâcher de conquérir l'appareil de l'État pour forcer les grandes organisations capitalistes, à un moment, pour caricaturer, à guillotiner leurs patrons et se mettre au service du peuple. il y avait un article qui m'avait moi marqué et dont je parle là dans le livre. C'est un article qui était paru dans Le Monde diplomatique il y a 2 ans quand j'ai commencé à travailler vraiment sur le livre, un article qui s'appelait Walmart, cheval de Troie socialiste ou cheval de Troie du socialisme, je ne sais plus. Il y avait un point d'interrogation à la fin. Mais la réponse, c'était oui. C'est-à-dire, les auteurs disaient, l'entreprise Walmart, là, qui est cette chaîne de supermarchés organisée à l'échelle mondiale et avec des tonnes de filiales qui travaillent ensemble, avec tout un réseau d'approvisionnement mondiaux et de logistique mondiale. Eux, ils disent, mais ça, c'est vraiment une préfiguration du socialisme. C'est génial, parce que les petites épiceries de quartier ou les petites coopératives, en fait, on sait bien que c'est pas efficace. Du coup, les gens, ils bossent pour rien. Là, Walmart, tac, c'est la coopération à l'échelle mondiale. Le seul problème, c'est qu'à la fin, il y a un mec qui se met de l'argent dans les poches. Mais là, nous, le jour où on va faire la révolution, on gardera tout Walmart, on enlève le patron, on enlève les profits. Et c'est ça, le communisme. Alors, les auteurs de cet article et moi, on n'a pas la même conception de qu'est-ce que ça veut dire, à mon avis, le socialisme, le communisme, faire la révolution, quoi. Pour moi, ça, c'est une conception qu'on pouvait... qu'on pouvait partager peut-être il y a un siècle quand le capitalisme industriel s'était pas développé. Mais là, on voit bien tout ce que ça produit à l'échelle mondiale et on voit bien tout ce que ça produit aussi de façon sur le bilan environnemental de ces choses-là. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est absolument pas durable, absolument pas tenable. Donc ça me paraît incroyable que des gens arrivent à tenir encore ça aujourd'hui. Mais en fait, c'est le cas. Donc c'est des conceptions de la société, du changement social et du socialisme qui sont encore très partagées aujourd'hui. Quand on est dans une conception du changement social comme ça, je comprends que les ingénieurs qui désertent ou les ZAD, ça fasse rigoler et qu'on s'en moque, quoi. Comme le faisait d'ailleurs Frédéric Lordon dans un article du Monde Diplo le mois avant ou le mois après cet article-là, où il disait « Bon, la ZAD, c'est bien gentil, mais c'est pas comme ça qu'on change le monde. » Alors, je pense, du coup, pour résumer ce truc-là, je pense qu'il faut pas confondre planification et socialisme. C'est pas la même chose. Je disais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui encore parmi les contestataires qui sont imprégnés par ces conceptions du changement social. Il y a quelques partis en France qui se revendiquent explicitement du marxisme. Ça va être Lutte ouvrière et le NPA. Mais à gauche, faut voir aussi que la plupart des dirigeants de la CGT ont été formés par le Parti communiste et que dans les dirigeants du Parti socialiste ou même Jean-Luc Mélenchon, c'est des gens qui sont passés par le trotskisme dans leur jeunesse, qui ont, pour un certain nombre d'entre eux, comme Julien Drey ou Lionel Jospin, qui ont été formés par, ça s'appelait l'OCI, qu'est-ce que ça voulait dire, OCI, je ne sais plus, c'était les trotskistes lambertistes. Du coup, c'était des gens qui formaient leurs militants et qui ensuite les envoyaient faire de l'entrisme dans des organisations un peu plus molles pour durcir la ligne de ces organisations. Mélenchon, par exemple, donc il a été formé par là. Un grand nombre des dirigeants de gauche aujourd'hui ont été formés par ces organisations. Et donc, il paraît logique que de façon consciente ou inconsciente, ces conceptions soient encore très présentes. Et je pense que c'est ça qui empêche ces organisations de comprendre réellement ce qui se passe dans les nouvelles luttes, les nouvelles formes de lutte qui bouillonnent un peu en France aujourd'hui. Avec un gros point de désaccord, en fait, c'est que... Derrière cette conception marxiste, léniniste, bolchevique du changement social, il y a l'idée que la fin justifie les moyens. C'est-à-dire, pour Lénine, en particulier pour Lénine, mais pour d'autres théoriciens du marxisme, l'idéal qu'on veut atteindre, l'idéal communiste, il est tellement beau, il est tellement grand, qu'il peut justifier n'importe quoi, et les moyens d'action, on s'en fout complètement. On peut utiliser n'importe quel moyen pour atteindre notre idéal, tellement celui-ci est quelque chose de désirable. C'est développé aussi par Trotsky dans un bouquin, il fait un bouquin entier sur le sujet qui s'appelle « L'or moral et la nôtre ». Le bolchevisme, il est vraiment sur cette doctrine de la fin justifie les moyens. Alors que les nouvelles formes de lutte, là, dont je parlais tout à l'heure, Elles ont une caractéristique, c'est qu'elles sont dans une autre conception de la politique, une conception de la politique radicalement différente, qui n'est pas du tout une conception de la politique ni comme délégation, ni comme représentation, mais vraiment avec une grosse insistance sur les moyens qu'on emploie et sur une politisation des moyens et du quotidien. On refuse de déléguer son pouvoir à des instances supérieures une fois tous les 5 ans ou quoi, ou de revendiquer auprès d'institutions géantes. Et à la place, on prend une posture radicale. C'est par les choses que je fais au quotidien que je change le monde. Il y a une sorte de recherche, de mise en cohérence des moyens utilisés et de l'objectif. Il faut que ça marche ensemble. Alors, et puis des fois, il y a des dérives. Qu'il faut quand même mentionner là, dans tous ces mouvements de lutte, c'est pas tout rose quoi. Plein de fois, il y a complètement une perte de vue de l'objectif. Et moi, ce que j'ai constaté à plusieurs reprises, c'est des groupes militants ou des personnes qui mettent tout sur finalement les moyens qu'on emploie, qui oublient complètement le but de transformation sociale. Donc, ça va être des groupes libertaires qui mettent toute l'insistance sur des choses par ailleurs très sympathiques et très importantes, comme l'égale participation de chacun aux décisions, la circulation de la parole, le fait que tout le monde se sente bien dans toutes les décisions. Chose qu'il faut faire, aucun doute là-dessus. Mais moi, j'ai vu des groupes qui ont de fait mis tellement d'insistance sur ça qu'ils en sont venus à ne plus du tout intervenir de façon militante pour transformer la société. On le voit chez d'autres gens qui sont moins organisés et peut-être moins de tradition libertaire. Les fameux ingénieurs qui désertent, il y en a certains en effet qui vont rejoindre des projets collectifs, des projets de lutte, et il y en a un certain nombre, on se dit en fait ils ont fait ça pour se faire une petite vie bien au calme, tranquille, pour s'améliorer leur propre vie à eux et pas pour changer le monde. Donc ça, c'est un peu la tentation, je dirais, individualiste, libérale ou postmoderne qui parcourt ces nouveaux mouvements. La tentation d'évacuer l'objectif de transformation sociale au profit d'une insistance stricte sur les moyens qu'on emploie qui seraient l'alpha et l'oméga du changement social. Mais malgré ces dérives, moi j'ai quand même l'impression que c'est des mouvements qui sont bien plus adaptés à l'époque qu'on vit pour changer le monde que les vieux mouvements traditionnels du mouvement ouvrier comme le syndicalisme ou les partis politiques. Ce qu'on a dans le bouquin un peu pour essayer de nourrir ça, c'est peut-être l'apport de la philosophie et de la théorie anarchiste qui permet un peu de réfléchir ces trucs-là, parce que l'anarchisme, c'est cette partie du mouvement socialiste qui n'est pas le marxisme, qui n'est pas le saint-simonisme ou les autres courants dont j'ai parlé, qui est une tradition qui existe depuis peut-être les années 1880 et qui est un courant qui est à la fois anticapitaliste et contre l'État. Qui dit non, vu qu'on est contre l'État, on ne va pas lutter au sein de l'État, on ne va pas prendre le contrôle de l'État pour le faire dépérir. Ça ne marche pas comme ça parce qu'il ne faut pas employer des moyens d'action qui sont contradictoires avec l'objectif qu'on recherche. Lénine n'était pas du tout d'accord avec ça. Lénine, lui, disait les anarchistes, c'est des doux rêveurs. Moi, je suis pour le dépérissement de l'État. Comment est-ce qu'on va faire le dépérissement de l'État? On va prendre le contrôle de l'État. En URSS, par exemple, ça n'a pas très bien marché. Finalement, ils n'ont pas organisé le dépérissement de l'État. L'État soviétique n'a fait que se renforcer au cours des décennies qui ont suivi la prise de pouvoir par les bolcheviks. Alors que la philosophie anarchiste, en tout cas, elle, ce qu'elle dit, c'est si un moyen d'action est contradictoire avec l'objectif, on refuse de l'utiliser. Et on garde en tête que le but, c'est d'obtenir une transformation sociale, une révolution, une mise en commun des moyens. Mais on ne peut pas faire abstraction des moyens. On ne peut pas simplement dire « on s'en fout ». Parce que, et c'est peut-être ça, selon moi, qui permet de trouver une articulation ou une bonne manière de penser les choses entre les écueils qu'il y a des deux côtés. Là. Parce que moi, j'ai l'impression que si on refuse de penser les moyens qu'on emploie, si on fait comme Lénine et qu'on dit « les moyens qu'on emploie ne sont pas importants, ce n'est même pas la peine d'y réfléchir », on est guidé par notre idéal et il nous emmènera là où il faut, on constate que dans les faits, on se fait entraîner par les moyens qu'on utilise. On croit qu'on n'utilise que des instruments, mais en fait, on devient les instruments des instruments et on se retrouve à être les serviteurs de l'État sous prétexte de viser son dépérissement. On se retrouve à être le jouet des moyens parce qu'on a refusé de les politiser. Et pour les nouveaux mouvements de lutte, la cause du problème n'est pas la même, mais le résultat, c'est le même, bah, si on perd de vue l'objectif qu'on recherche et qu'on se concentre uniquement sur les moyens, bah, là aussi, on est le jouet des moyens qu'on emploie. On ne va pas atteindre une transformation sociale. On va uniquement rester dans de la pratique de fonctionnement horizontaux, de la construction d'alternatives fort sympathiques, mais on n'arrivera pas à tenir ensemble des moyens qui nous conviennent et un objectif de transformation sociale. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que les anarchistes ayant réfléchi et pratiqué ça depuis plus d'un siècle, pas loin d'un siècle et demi, il y a quand même énormément de choses à aller prendre dans la théorie et la pratique anarchiste pour venir nourrir les pratiques de ces nouveaux mouvements sociaux et leur remettre de la conflictualité, éviter la dépolitisation et essayer de contribuer à ce que ce soit des manières efficaces de changer le monde aujourd'hui. Parce que je pense que c'est des moyens d'action particulièrement, ces mouvements, ces nouvelles formes de lutte là, dans l'époque, dans la société de 2022 en France, qui est une société de plus en plus fragmentée et où la plupart d'entre nous n'ont aucune prise sur les décisions qui sont prises à des endroits très éloignés de nous, sur lesquels on n'arrive pas du tout à attraper quoi que ce soit. Ça me paraît complètement illusoire de rester sur des logiques de prise de participation, de co-gestion ou de conquête de l'État pour réussir à faire pression sur ce système. Donc c'est pour ça que je pense que ces nouveaux mouvements, par le dynamisme qu'ils portent, sont sans doute plus adaptés à l'époque dans laquelle on est. Alors, pour revenir à ce que je soulevais au début, et où l'impression qu'on a parfois en tant que contestataire, que militant, militante pour la justice, pour l'émancipation, pour l'égalité, d'être pris un peu entre le marteau et l'enclume, d'être cantonné à des postures de résistance, de ne pas avoir de perspective, de hurler dans le désert, d'être coincé entre Le Pen, Zemmour, Macron, enfin vraiment des situations complètement catastrophiques comme ça. Je crois qu'il faut savoir un peu décaler son regard et voir les luttes là où elles sont. Je ne dis pas que la situation elle est excellente, hein, parce que là, les luttes dont je parle, elles sont très minoritaires et elles se situent pour l'instant, pour la plupart d'entre elles, dans les marges de la société, avec de temps en temps des éclats qui se font de manière complètement imprévue. Et pour ce qui s'est passé il y a 4 ans, par exemple, tous les ronds-points de France sont occupés pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, par des gens qu'on ne connaissait pas auparavant. Mais globalement, c'est des choses qui restent coincées dans les marges. Là, pour moi, si on veut réussir à se doter à reprendre un petit peu prise sur la situation, à retrouver des perspectives, la question, c'est vraiment comment est-ce qu'on articule ensemble les moyens de lutte et les objectifs. Qu'est-ce que c'est qui constitue une société souhaitable? Est-ce qu'une société souhaitable, c'est une société qui reprend, comme disait Lénine, la technique du grand capital, tous les outils formés par les trusts, une société hyper technologisée, une société super efficace, mais où on a supprimé le profit et les patrons? Questionnez vraiment la question de qu'est-ce qui constitue une société idéale, quoi. Qu'est-ce qui nous fait envie, en fait? Qu'est-ce qui nous ferait envie? Et en même temps, questionner les moyens d'action qu'on emploie, en gardant en tête qu'il faut que ces moyens, selon moi, hein, qu'il faut que ces moyens d'action soient dans une relative cohérence avec la société qu'on veut atteindre. Ça veut dire notamment sortir de toute cette histoire de progressisme obligatoire. Là, on vit dans une société où il n'y a pas que chez les militants de gauche, même d'ailleurs c'est plus répandu dans le reste de la société, je pense. Il y a vraiment une fascination pour tous les outils technologiques. On peut pas s'en passer. Il y a un proverbe qui dit on n'arrête pas le progrès. C'est quelque chose avec lequel tout le monde est d'accord, quoi. On constate qu'on peut pas arrêter le progrès et même tout le monde trouve que c'est comme ça, quoi. On avance. on est embarqué sur un fleuve et puis on suit le courant, on ne peut pas faire autrement. Pour moi, cette sorte de progressisme obligatoire, c'est quelque chose avec lequel il faudrait vraiment rompre, notamment parce que ça produit une forme de dépossession. On peut pas avoir de sentiment d'avoir de prise sur la réalité si on est dans une conception comme ça. Donc pour moi, il faut absolument, parmi les choses qui seraient importantes à faire pour retrouver pour imaginer quelle serait une société souhaitable, c'est politiser la question de la technique et de la technologie. Là encore, c'est une question de moyens. Hein. Est-ce que ce sont simplement des moyens ou est-ce que ce sont des choses qui nous entraînent dans des directions qu'on n'a pas choisies ? Et ça revient à questionner la question, à soulever la question de la société industrielle dans laquelle on est. C'est-à-dire, on ne peut pas autogérer une société industrielle à cette échelle-là, à moins peut-être qu'on ait été formé comme ingénieur, comme bac plus 5. Quelques personnes à qui on a transmis beaucoup de confiance en eux et beaucoup de compétences techniques, économiques, politiques peuvent avoir l'impression peut-être d'avoir des morceaux de prise là-dessus. Mais n'importe qui aurait un CAP, le bac ou guerre plus, de façon raisonnable... On voit bien que la société est devenue trop complexe pour être gérée. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui fait que les ingénieurs et les bac plus 5 ont plus de confiance dans les institutions politiques d'aujourd'hui, parce qu'ils pensent que c'est possible de se réapproprier tout ça, parce qu'ils ont des compétences techniques qui ne sont pas partagées par la totalité de la population. Je voulais également dire que autour de ça, là, il y a une articulation à trouver, parce qu'on sait que là, Macron ayant été réélu, le prochain chantier qu'on va se taper, je sais pas si c'est au printemps, cet été, cet automne, ça va être la réforme des retraites, qui vont probablement, si j'ai bien compris, vouloir faire passer par 49.3. Donc là, on va se retrouver une fois de plus à aller dans la rue pour aller venir faire des résistances à la casse du système des retraites. En fait, moi, ce que je propose dans le bouquin, c'est de chercher une articulation entre ces résistances qui sont évidemment nécessaires, parce que c'est pas la même chose de bosser jusqu'à 60 ans, jusqu'à 65 ans, jusqu'à 70 ans. C'est pas la même chose d'être payé 1000 euros par mois, 1400, enfin en tout cas au niveau des revendications d'augmenter le niveau du SMIC, c'est pas la même chose si le SMIC il est à 1000 euros par mois, à 1400 euros par mois, à 1700 euros par mois, à 2000 euros par mois, mais ça constitue pas un horizon souhaitable en tant que tel. Moi ce que je propose c'est de réarticuler ces résistances avec une société souhaitable, une société où on arrive à donner un contenu à un projet de société qui soit en fait pas compatible avec les promesses du capitalisme. Et c'est ça qui est compliqué, parce que là, à l'heure actuelle, il y a un peu deux critiques du capitalisme qui cohabitent. Il y a une sorte de critique sociale, une critique qui se place sur le terrain un peu économique, qui dit on voudrait être payé plus, on voudrait travailler un peu moins, on voudrait adapter un petit peu le cadre économique pour que les salariés, la population, les prolétaires aient une vie meilleure. Des améliorations immédiates de leurs conditions. Et il y a une critique culturelle du capitalisme, une critique qui vient questionner un petit peu qu'est-ce que c'est la richesse, qu'est-ce que c'est qui fait sens dans la vie, qu'est-ce que c'est qu'une société qui serait souhaitable. La critique sociale, on voit, hein, c'est beaucoup la critique qui est portée par la CGT ou la France Insoumise. La critique culturelle, c'est une partie qui a été moins exploitée, et c'est quelque chose qui était assez vivace pour ce que j'en ai compris au 19e siècle, qui au cours du 20e siècle, notamment sous l'influence du marxisme, a été un peu mis de côté, qui est beaucoup une critique de droite aujourd'hui, parce que qui est une critique un peu romantique, le capitalisme c'est moche, voilà, les pauvres, les pauvres, c'est vrai, mais... Et en fait, moi, ce que je propose, mais à la suite d'autres gens, vous aviez défendu des choses comme ça dans l'inventaire, là, dans une revue qui est publiée à la lenteur, c'est de réarticuler ensemble les deux, quoi. Parce que si on fait que de la critique sociale, on se contente de ces postures de résistance, et en plus, on voit que ça ne marche pas, parce que là, la résistance, les réformes du code du travail ou des retraites, on s'en prend plein la gueule. Et par contre, la critique culturelle toute seule, c'est du romantisme, c'est de l'individualisme. À mon avis, ça mène nulle part. C'est comment est-ce qu'on arrive à faire jouer les deux ensemble ? C'est ça, moi, quelque chose qui me paraît important. Et je pense que ça peut être quelque chose d'assez enthousiasmant et d'assez efficace, quelque chose qui puisse permettre de nous redonner prise sur la réalité, quelque chose qui nous permette de nous opposer de façon à peu près conséquente à ce qui se passe actuellement, en articulant ensemble des résistances immédiates et une visée de transformation sociale radicale qu'on peut appeler révolutionnaire. Quoi. Voilà. En tout cas, pour moi, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, je ne développe pas là tous les thèmes qui sont dedans. Je me suis focalisé juste sur certains des points en imaginant que vous n'ayez pas lu le livre puisqu'il vient de sortir. Voilà.
Merci, Nicolas. On va pouvoir maintenant lui poser des questions et essayer de rentrer peut-être plus en détail dans tout ça. Et le livre, il est composé en deux parties pour vous dire peut-être des choses qu'il n'a pas développées trop là. Mais il y a une partie sur vraiment réflexion sur la fascination pour le développement des forces productives, le développement technique, économique, industriel à gauche, avec toujours cette idée qui est beaucoup défendue par Marx, que ce développement-là, il va accoucher quasiment nécessairement d'un autre monde, d'un monde meilleur, d'un monde d'abondance, où en fait, il y aura tellement de choses qui seront produites qu'il n'y aura plus aucune raison de se les approprier à titre privé et qu'on pourra tous, on pourra enfin accéder au communisme. Donc il y a la proposition d'essayer de défaire, de l'idée qu'il faut aujourd'hui se défaire de cette idée-là, de ce fétichisme-là, d'une certaine conception très naïve du progrès qui identifie complètement progrès ou développement économique, technique, scientifique au progrès social, moral et politique de l'humanité. C'est de sortir de ce vieux mythe qui a été très, très fort à gauche et qui continue à être très fort à gauche quand on lit certains textes, notamment de Jean-Luc Mélenchon, etc. C'est sur le fait que les insoumis iront aussi s'installer sur Mars s'ils le veulent. C'est un petit billet dans son blog et où on retrouve le même imaginaire que celui de Elon Musk quelque part, l'homme le plus riche du monde aujourd'hui, qui a aussi ce projet-là, mais qui a les moyens lui de le mettre malheureusement en œuvre. Et ça, c'est la première partie du bouquin. La deuxième partie du livre, c'est aussi sortir de cette idée que la lutte, la seule lutte efficace, le bon moyen de lutter, c'est de conquérir l'appareil d'État, parce que tant qu'on n'aura pas l'appareil d'État, on ne pourra rien faire, rien transformer. Et avec un siècle de recul au moins sur toutes les expériences de prise en main de l'État, que ce soit par la révolution violente en Union soviétique, à Cuba ou en Chine, ou que ce soit par les élections comme Mitterrand en 81 ou la gauche en Allemagne, etc. À chaque fois, une fois arrivé au pouvoir, c'est bien autre chose qui s'est passé que la réalisation de l'idéal social communiste, etc. Et donc, il faudrait peut-être, tirer toutes les conséquences de ces faits solidement établis et se dire il faut faire autre chose. Et par exemple, moi j'aurais envie de te poser la question pour commencer. Donc se défaire de la fascination pour la technologie et le développement, le progrès dans ce sens-là, moi je suis complètement d'accord, mais comment on fait après qu'est-ce qu'on fait contre la technologie, comment on peut lutter, comment on peut s'organiser aussi pour arrêter cette fuite en avant, sachant que toutes ces technologies merveilleuses, ce développement des forces communistes, ce développement des forces économiques, technologiques, scientifiques, ils se traduisent par une dépendance toujours plus accrue, toujours plus profonde envers ce monde-là, et donc par l'impossibilité réelle, en effet, de le transformer, au moins de le transformer dans un sens d'autogestion, de solidarité, de justice et d'égalité.
En tout cas, moi, mon but en faisant le livre, c'est pas spécialement de prescrire des pratiques, que ce soit individuelles, collectives ou politiques. C'est de soulever quelques questions, de faire quelques constats de choses qui marchent pas, de montrer aussi certaines pistes qui existent et qui sont négligées, de réactiver certains courants critiques, certains courants révolutionnaires qui sont trop oubliés aujourd'hui, et de livrer ça à la discussion, en particulier auprès des gens qui sont impliqués dans des luttes aujourd'hui, pour qu'on essaye de se saisir de ça. Un truc très important, c'est de sortir de ce progressisme obligatoire. Quand Lénine dit qu'il faut absolument passer par certains stades techniques, technologiques pour atteindre le communisme, moi je crois que on peut l'appeler comme on veut, hein, une société souhaitable, une société émancipée, une société où régnerait la justice, où régnerait l'égalité réelle, où on mettrait en commun les prises de décision, où on mettrait en commun la production. Je crois que ça, c'est avant tout la volonté des êtres humains réunis qui fait ça, et pas tant le niveau de développement technologique, pas tant le niveau d'abondance matérielle qui règne. C'est sûr que si on est complètement dans la misère, c'est compliqué de partager, mais c'est pas avant tout le niveau de développement technologique qui emmène une société à être socialisée. Et du coup, moi, ce que je propose, c'est d'essayer de sortir de ce progressisme obligatoire. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive, d'une façon ou d'une autre, à avoir les débats qui nous permettent de décider collectivement quelle technologie nous semble utile, souhaitable, belle, qu'on aurait envie de continuer, et lesquelles on estime que c'est pas raisonnable de continuer, soit à cause de leur coût environnemental, soit à cause de leur coût social, soit parce qu'on se dit ça correspond pas à nos valeurs, voilà. Et je pense qu'il faudrait réellement se livrer à ce travail là d'inventaire. C'est Simone Veil, la philosophe, qui disait qu'il fallait se livrer à un travail d'inventaire au niveau des techniques. C'est quelque chose que je rejoins tout à fait, quoi. Alors après, je sais pas, moi j'habite dans une ville qui est une capitale technologique, et où on produit des quantités de saloperies électroniques. On fabrique des puces électroniques pour tous usages, y compris usage militaire. Donc moi, dans ma pratique quotidienne militante, une partie de ce que je fais, c'est essayer de mettre en débat ce progressisme obligatoire, voire même parfois de rentrer un petit peu dans l'art des industriels ou des chercheurs, en pointant le côté négatif de ces innovations. Après, je pense que ça, c'est une partie que la critique doit mener, mais c'est pas le principal. Pour moi, le principal, ce serait déjà de sortir de ce progressisme obligatoire et se demander ce qu'on veut, quoi. Je sais pas si ça répond tout à fait à ta question.
Des pistes plus concrètes, de stratégie, de tactique politique, mais...
Non, il y a autre chose que je pointe un peu dans le livre. Alors moi, au début, j'avais prévu de faire de la critique, quoi. C'est facile, la critique, quoi. Et puis, en écrivant le bouquin, l'écriture du bouquin, ça s'est pas du tout passé comme je voulais, d'une part parce que je voulais l'écrire il y a 6 ans, puis que je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait non plus il y a 5 ans, je l'ai pas fait non plus il y a 4 ans. Bon, je faisais d'autres trucs. Et je m'y suis mis il y a 2 ans. Et je croyais vraiment que j'avais mes idées très bien rangées dans mon cerveau, et que j'allais me mettre à écrire sur mon ordinateur, et que j'allais tout aligner hyper bien. Alors pas du tout. Pas du tout, en fait. Je me suis rendu compte que quand je me suis mis à écrire, en fait, c'était pas construit, c'était pas cohérent, et qu'il allait falloir retourner bosser, écrire plus, mieux réfléchir, lire d'autres choses, mettre mes idées au défi de discussion avec des gens, ou de bouquins où certaines idées auraient déjà été exposées. Donc, en l'occurrence, pour moi, ça... Pour ma part, j'ai fait ça pour m'éclaircir les idées, et ça m'a été, à titre personnel, très profitable, et ça m'a permis de structurer pas mal de lectures que j'ai fait ces 2 dernières années autour d'un axe de recherche. Donc moi, j'ai trouvé ça pratique. Surtout, j'ai pas de formation universitaire, j'ai pas fait ça, c'est pas du tout une thèse de doctorat que j'aurais transformée en livre, hein, c'est juste une volonté de recherche intellectuelle militante en rapport avec des considérations pratiques. Donc ça m'a permis de faire ça, et j'ai complètement oublié ce que je voulais dire à la fin, donc je vais pas le dire puisque je l'ai oublié.
Du coup, on va faire comme à la télévision, on va faire une petite page de pub, et puis peut-être que tu vas retrouver
moi, voilà.
Et puis on va faire circuler la parole dans la salle. Donc la petite page de pub, c'est juste il se trouve qu'il a parlé plusieurs fois d'une revue qui est publiée par une maison d'édition qui s'appelle La Lenteur. La revue s'appelle L'Inventaire. Le sous-titre, c'est « Pour tous ceux qui ne veulent ni déléguer la conduite de leur vie, ni céder leur part des affaires communes, ni renoncer à leurs humaines conditions ». Et voilà, le titre de L'Inventaire, c'est exactement l'idée qu'il a dit, c'est Voilà, il faut sortir, se libérer complètement à gauche cette opposition progressisme, progrès-réaction, où nous, on serait les progressistes, eux, ce seraient les réactionnaires, parce qu'en fait, le progressisme, c'est quoi? C'est l'idée que tout ce qui est nouveau, moderne, c'est ipso facto meilleur que l'ancien. La réaction, le traditionnalisme, c'est l'idée que tout ce qui est traditionnel, c'est ipso, par définition, meilleur que ce qui est nouveau. En fait, c'est deux variantes de la même bêtise, de la même idée qu'on a à juger à chaque fois les choses, les pratiques, les innovations ou les traditions. Les héritages, les legs du passé, et qu'on a à savoir si on veut les garder ou pas, au nom de quelles valeurs, est-ce qu'elles favorisent la solidarité, la justice et l'habitabilité de notre planète ou pas. Donc, c'est une sorte de tri, d'inventaire, à la fois de ce qui nous est proposé, de ce qu'on a inventé et de ce qui est à venir dans le futur, mais aussi un inventaire de ce qu'on a hérité du passé, et pas juste juger en bloc, ce qui est une manière en fait de ne pas exercer son jugement. Et donc voilà, il y a donc dans l'avant-dernier numéro de l'inventaire, il y a un très beau texte de Nicolas Bonanni qui s'appelle « Ramener le soleil en arrière » et « Réflexion sur le marxisme à travers l'œuvre de Jack London » dont il a parlé un petit peu au début. Et voilà, parce que c'est un bon... Jack London, c'est un écrivain fantastique, c'est un militant incroyable et c'est une super personnalité, c'est hyper intéressant. Et après, on voit plein de... mauvais côté de mauvais héritage de la gauche, et ressort aussi très nettement dans sa vision extrêmement scientiste du monde, sa vision déterministe de l'histoire, etc. Tout ça ressort excellemment pourtant dans une œuvre de quelqu'un qui n'est pas comme Lénine ou d'autres.
Je fais une précision et je dis ce que j'avais oublié de dire. La précision, c'est que Jack London, aussi bien que Karl Marx, c'est génial et il faut les lire. Jack London, d'une part, parce que c'est un grand romancier, c'est hyper agréable à lire. Il y a des super histoires. Ça se voit pas trop dans ses bouquins, mais c'est un philosophe qui avait décidé de faire des romans, et la plupart du temps, il écrit des fables. Mais ça se voit pas, parce que comme il écrit hyper bien, c'est des grands romans d'aventure. Mais c'est vraiment hyper plaisant à lire. Et moi, simplement, je me suis un petit peu attelé à décrypter une partie de la vision qu'il avait en dessous et des choses qui me posaient problème. Notamment, même si ce n'est pas mentionné dans l'article, c'est parce que j'avais lu L'Aventureuse de Jack London. Je ne sais pas si vous avez lu ça, ça nous sort un peu de notre sujet. Mais L'Aventureuse, c'est un grand roman d'aventure. Et c'est un roman d'aventure extrêmement féministe et ultra raciste. Écrit en 1909 par Jack London. C'est l'histoire... je ne vous fais pas toute l'histoire, mais il y a de telles contradictions. À un moment, je lis un romancier que j'aime beaucoup, qui est un propagandiste socialiste, ultra-féministe, et qui fait des pages, mais racistes, vous imaginez même pas, quoi. Vraiment, c'est incroyable. Je me suis dit, il y a un paradoxe que j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que c'est la pensée de Jack London et pourquoi il fait ça. Et ça m'a amené à faire cet article-là où au final, j'évoque pas l'aventureuse, sinon l'article serait beaucoup trop long et puis j'ai une petite tendance à me disperser. Alors là, on a un peu resserré l'article et c'est mieux. Mais donc, London, comme Marx, c'est des gens hyper intéressants, soit par leur style d'écriture, les histoires qu'ils racontent ou les concepts qu'ils produisent, C'est des lectures en fait extrêmement enrichissantes. Là, j'ai dit un petit peu de mal de Marx ou d'une certaine version du marxisme. Le proverbe que quelqu'un m'a dit il y a quelques jours, là, c'est on est grand que parce qu'on est juché sur les épaules de nos ancêtres. Clairement, Marx, si je me permets de le critiquer, c'est parce que je l'ai lu, parce que je suis imprégné d'une partie de sa pensée. Et parce que en fait, être fidèle à la pensée de Marx, c'est douter de tout et c'est remettre en cause les évidences. C'est ça que lui il faisait. Il se livrait à un travail d'analyse critique de ce dont il héritait. Et je pense que c'est tout à fait fidèle à la pensée de Marx que de juger cette pensée au vu de ce qu'elle a produit au fil des 150 ans de sa circulation, quoi. Donc voilà. Faut pas faire de Marx bashing et de London bashing. Et le truc que j'avais oublié tout à l'heure, c'était que je vous disais que j'avais prévu de me livrer à un exercice critique, comme ce que j'ai fait d'ailleurs dans l'article sur London, c'est un exercice critique. Mais coup de bol, en fait, en faisant le livre, je me suis retrouvé des fois à éprouver le besoin de formuler des choses un petit peu positives, quoi. Non seulement essayer de voir ce qui, dans le monde d'aujourd'hui, là, me paraissait des appuis intéressants sur lesquels bâtir quelque chose, des luttes qui existent, qui existent déjà, qui fonctionnent de manière réelle, quoi, et qui sont inspirantes pour plein d'aspects, mais aussi des fois, des intuitions que j'ai de qu'est-ce qui pourrait être une société un peu plus souhaitable, par exemple. Plus qu'une société constituée de trusts, de porte-containers, de codes-barres, de puces électroniques ou quoi, moi je pense qu'une société souhaitable laisserait plus de place à un rapport avec le vivant, un rapport avec les animaux, que la société dans laquelle on vit, quoi, qui est d'une société de plus en plus urbanisée, où on est de moins en moins en contact avec des animaux, où en réalité on est tout le temps dépendant de la nature on mange, quoi. On mange des légumes pour 99% d'entre nous et de la viande pour 96% d'entre nous. Je ne sais pas exactement les chiffres. Mais en tout cas, on est en fait en réalité ultra dépendant des êtres vivants, des végétaux ou des animaux. Et par contre, il y a un refoulement de ça, il y a une mise à distance complète. Et moi, je pense que reprendre prise sur la réalité, c'est un moment aussi avoir un petit peu conscience de qu'est-ce qui est derrière l'appareil de production. Se débarrasser par certains aspects de l'appareil de production, renouer avec certains savoirs, renouer avec certaines pratiques, parce que là, je sais pas, on dit souvent que il y a des enfants qui croient que les poissons, ils ont la forme des poissons panés, mais en fait c'est assez logique, quoi. Si on produit plus notre propre nourriture, si on n'est jamais en contact avec des animaux, on peut pas savoir d'où viennent les choses qui arrivent dans notre assiette. Il y a à la génération de mes grands-parents, par exemple, tout le monde était beaucoup plus, tout le monde, pas tout le monde, mais on était beaucoup plus en contact avec la production alimentaire qu'aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se passer. C'est que tous les éléments de la production s'éloignent de nous, ça s'éloigne socialement. Ça s'éloigne géographiquement. On ne sait plus comment les choses sont faites. Et il y a vraiment un effort de réappropriation de certains savoirs. D'une part, parce que ça nous apprend comment c'est fait. Et après, le jour où on le consomme, même sans l'avoir produit, on a un petit peu une meilleure idée quand même de qu'est-ce qu'il y a. Et puis aussi, tout simplement, parce qu'il y a certains savoirs qui sont complètement en train de disparaître. Et pour moi, engagé dans une dynamique là qui n'est pas du tout tenable, on est dans une dynamique, en tout cas en Occident, où on a un niveau de vie tel, je me suis perdu dans les chiffres, je sais plus si on en est que pour avoir le mode de vie des Français, il faudrait 3 planètes ou 6 planètes. Mais en tout cas, on est dans une dynamique on est dans une parenthèse, quoi, à mon avis, qu'il faudra refermer à un moment, parce que ce sera pas possible d'élargir notre mode de vie à la planète entière, et ce sera pas possible que ça dure éternellement. Donc à un moment, il va falloir décroître d'une façon ou d'une autre et retrouver un peu une prise sur la situation. Et si certains savoirs ont disparu à ce moment-là, ce sera compliqué, quoi. Si on dépend à 100% de l'industrie et qu'on a complètement oublié comment faire pour ne plus dépendre d'elle, je ne sais pas comment le retour en arrière, même si c'est un mauvais mot, sera possible. Donc ça m'a amené à faire quelques pages sur... promouvoir peut-être une société où les échelons de décision seraient plus bas, une société où les groupes où on serait organisé à une échelle plus faible et puis fédéré à des échelles plus grandes, et où on est où on réhabilite un peu plus la production artisanale et la production agricole, alors qu'on n'est pas du tout dans cette voie-là. On est vraiment lancé à marche forcée dans l'industrialisation de l'agriculture, la disparition de la paysannerie. Voilà. Non, t'as raison, hein. C'est un avis que je partage, et c'est des luttes où, à l'occasion, j'ai pu participer à des choses comme ça. Et c'est hyper intéressant. Moi, je tâche de les rendre visibles et de leur donner du crédit dans le bouquin et dans moi, la vision que je développe. Pour autant, je pense qu'il faut pas non plus les surévaluer, quoi, hein. Tous ces projets d'opposition, c'est très intéressant de les réhabiliter, notamment quand on vient d'une conception du changement social dominante, qui est qu'il faut aller toujours plus loin, toujours plus haut. Là, il y a des gens qui disent non, on veut pas aller plus loin, on veut pas aller plus haut. Donc ça pose quand même complètement un autre rapport. Mais je sais pas combien de gens ça implique. Enfin, je sais pas dans quelle mesure c'est un sentiment majoritaire dans la population française, tu vois, qu'il faudrait en fait, par exemple, arrêter de construire des autoroutes. Ou autre exemple du genre, on est un peu ambivalent avec ça parce que il y a aussi beaucoup de gens qui adhèrent à ce genre de projet, soit sur le papier, soit on est très content d'avoir toutes ces infrastructures et d'en bénéficier. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pas tout à fait réglé là, c'est dans moi ma compréhension de l'affaire, hein, c'est cette dialectique entre les marges et le centre. En même temps qu'il y a des marges très dynamiques où il se passe beaucoup de luttes. Il y a la production d'un centre, d'un consensus social qui est de plus en plus fort et où c'est de moins en moins possible de porter des critiques, quoi. C'est-à-dire que je sais pas quel est le rapport entre ces luttes et quel poids elles ont réellement dans la société. Je pense qu'il faut qu'elle s'étende, mais par exemple, quand il y avait le mouvement des ZAD, là c'est un peu retombé, mais on va dire principalement il y a 5 ans, 6 ans, je sais plus trop, il y avait le mot d'ordre ZAD partout, avec un certain nombre de gens qui pensaient vraiment que s'il y avait une ZAD ou deux dans chaque département, à un moment il y allait y avoir un effet de masse et que ça allait faire péter quelque chose. Bon, en fait, il n'y a pas eu de ZAD dans tous les départements. Ce qu'on a vu, c'est que le fait qu'il y ait eu quelques ZAD qui étaient assez dynamiques, ça fait qu'il y a eu plein d'aménageurs, de présidents de conseils départementaux ou quoi, qui ont mis un petit peu pédale douce parce qu'ils voyaient que l'association de riverains, là, ils étaient chauds, alors ça leur a un peu fait peur et tout. Ça a fait aussi qu'il y a un certain nombre de grands projets qui ont été abandonnés de façon... ouais, je sais pas, hein, quand même, c'est assez remarquable, hein, entre le Triangle de Gonesse, Notre-Dame-des-Landes, le Center Parks de Roibon, je sais plus quels autres abandons il y avait eu. Le barrage de Sivens, des abandons qui ont été donnés un peu dans la même période. Donc ça a eu un impact, mais quel est le poids de ces choses? Et aussi, ça a vachement irradié les imaginaires. En fait, on a vu ça aussi, quoi, à quel point, moi, c'est un truc qui n'en finit pas de m'étonner, comment, en fait, tous les gens plus ou moins de gauche ont dans un coin de la tête l'imaginaire du zadiste qui existe. C'est quelque chose qui a irradié très fort dans la population française. Du coup, ça doit participer un petit peu de cette sorte de combat culturel, de proposer des formes de dissidence, même si en fait la plupart des gens vont pas du tout s'engager, soit dans des dynamiques de résister à des projets à côté de chez eux, soit d'aller habiter une zone d'occupation. Mais il y a quelque chose d'hyper intéressant qui s'est passé et qui se passe encore, ouais, autour de ces dynamiques de blocage de grands projets, ouais, ou de résistance, hein, blocage. Ouais, c'est une question ou c'est plusieurs questions intéressantes, je trouve. Alors peut-être j'ai pas été clair par moi ce que j'entends changer la société. Ça veut dire changer les rapports sociaux. Ça veut dire changer le rapport social par défaut qui règne entre des personnes. Là, un des rapports sociaux qui règne par défaut dans le monde dans lequel on vit, c'est la concurrence, c'est la loi du profit, c'est la mise en concurrence de tous contre tous. C'est le salariat, c'est l'obligation de vendre sa force de travail sur le marché pour gagner de quoi vivre, avec un filet de sécurité un peu keynésien qui a été mis en place, des minima sociaux, quelques régulations du marché du travail. Mais il y a et dans cette histoire de concurrence, il y a vraiment un truc hyper dur, je trouve, où ceux qui naissent moins bien dotés, enfin, en fait, dans l'absolu, je ne sais pas s'ils sont moins bien dotés, mais ceux qui naissent avec des aptitudes qui sont moins reconnues que d'autres, ça va être galère pour eux, et puis ils finiront au minimum vieillesse, quoi. Donc, je moi, je suis tout à fait favorable à ce que tu dis, à ce qu'on arrive à créer. Je crois que c'est les apatistes qui disaient quelque chose comme ça, là, pour un monde où il y ait place pour plein de mondes différents. Mais ce qu'il faut voir, alors, t'as raison aussi sur autre chose, c'est que la société, ça n'existe pas, c'est pas un bloc homogène, c'est constitué d'une part de classe sociale et d'autre part de rapports de force. Et dans cette société, dans la société dans laquelle on vit, la société française, moi, c'est surtout ça que je connais. Ben, il y a des gens qui détiennent plus de pouvoir que d'autres. Il y a des gens qui ont un intérêt à garder ce pouvoir et à maintenir l'état des rapports sociaux tel qu'il est. Et qui sont tout à fait prêts à tolérer qu'il y ait une marge de quelques pourcents qui fassent autrement. On est prêt à tolérer une marge de quelques pourcentages de déserteurs, de gens qui ne se comportent pas tout à fait selon les normes attendues. Ça peut même occasionnellement servir le pouvoir pour montrer à quel point il y a des méchants. C'est le coup que Macron il a fait sur un autre sujet, sur le coup des non-vaccinés. On pense qu'on veut du vaccin ou pas, mais il s'est servi du fait qu'il y avait 9% de non-vaccinés pour les désigner quand il a dit qu'il les emmerdait, que c'était pas des responsables et que ça cessait d'être des citoyens. À un moment, t'instrumentalises complètement le fait qu'il y ait quelques personnes qui soient dans une minorité de personnes qui soient dans une résistance à ce que tu fais pour venir flatter ton électorat et leur dire « Regardez, moi, au moins, j'assure et je suis capable de leur dire leur cas de vérité. » Et du coup, dans le monde dans lequel on vit, où il y a quelques groupes, quelques dirigeants, quelques entreprises qui détiennent plus de pouvoir que la masse des sans-pouvoir, la masse des exploités, la masse des citoyens, c'est ça, c'est toujours sympathique si on réussit à monter cette communauté là à 20, tu vois, et puis à établir un truc avec des rapports non hiérarchiques où on fait que plein d'inégalités structurelles de notre société, on arriverait à ne pas les reproduire. Je sais pas, hein, moi je suis dans des dynamiques comme ça, j'essaye de participer à des trucs comme ça, mais pour moi ça suffit réellement pas parce que pendant ce temps-là, les gens qui restent dans le rapport social qui leur est imposé, qui en réalité nous est imposé, ben, en réalité, tu vis sur l'exploitation du reste de la planète, quoi. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que moi ou nous ou la moitié de la population française, on décide juste d'aller faire du potager. C'est que pendant ce temps-là, l'État français, bon, ben, il va chercher son uranium dans d'autres pays, il fait la guerre dans d'autres pays pour assurer ses intérêts. On ne peut pas simplement se contenter de nous se mettre de côté pour vivre une vie qu'on estimerait bonne sur des valeurs qu'on estimerait les nôtres, donc bonnes. Il faut également s'opposer, je trouve, au projet qu'ils ont et à la façon dont ils nous font vivre, quoi. Voilà. Bah, je te rassure sur une chose, vouloir produire sa propre nourriture, c'est pas réactionnaire. Ça, je crois, c'est bon. Après, bah, j'ai pas de réponse pour tes questions à toi. Moi, c'est juste, on en parlait hier après Là, moi, j'ai présenté le bouquin à Saint-Antonin-Nobleval hier, et puis après, on en discutait. Il faut juste se rappeler aussi que tout le monde n'a pas la même capacité à déserter. Et que, par exemple, la défense du système des retraites. Du code du travail, de l'assurance chômage et de la sécu, là, les petits chantiers de ces dernières années qui sont en route, bon, bah, c'est des choses, en fait, extrêmement importantes, parce que même si moi, je suis favorable à une société où la solidarité est organisée de façon serait pas organisée à l'échelle nationale, sur une base strictement impersonnelle, et où je ne sois pas uniquement un numéro de sécu et un numéro de CAF. En attendant, il faut constater que la solidarité, elle est organisée comme ça pour l'instant, et que certaines personnes, si on leur enlève ça, ou si on fait baisser l'APL de 5 euros, ou si on fait baisser tel truc et tel truc, bah en fait, ça met des gens vraiment dans la merde. Et alors, les gens qui ont des parents fonctionnaires, les gens qui ont un petit héritage, les gens qui ont fait des études supérieures, bac plus 5, il y a une petite marge pour s'en sortir. Ben, les gens qui ont juste un CAP et qui ont des parents qui ont juste un CAP, qui sont encore en train de rembourser les traites de leur maison, la marge, elle est moindre. Et du coup, c'est qu'il faut se rappeler, là, quand on se met dans des postures de désertion, qui on est, qui a la possibilité de faire les mêmes choix que nous, et comment on articule ça avec le reste des gens. Voilà. C'est tout. Tu vois, inventer d'autres formes de solidarité, ça devrait ne pas être incompatible avec préserver au moins pour... préserver le système de solidarité. Enfin, en fait, parce que qu'est-ce qui se passe quand le système de solidarité, il est dérégulé, détruit, remis en cause, là, ces dernières années? En fait, c'est que le pognon, il est siphonné pour aller dans les poches de certaines personnes pour maintenir leur taux de profit. J'ai plus d'exemples, j'ai pas tous les dossiers en tête, mais clairement, c'est ça qui se passe, quoi. C'est que la valeur qui est produite en France, elle bascule de plus en plus dans les poches du capital au détriment du travail. Et on a du mal à se donner prise là-dessus. Du coup, on peut être tenté de se dire... laisse tomber, moi je vais faire mon truc à côté. Mais eux, ils continuent leur machine infernale, au passage en broyant des gens. Et moi, je suis un peu désolé de voir comment, pour la plupart des initiatives, je sais pas, moi je vais à ce que j'appelle là, les manifs salaire, retraite, pouvoir d'achat, la société du chacun pour soi, on n'en veut pas. Et en fait, c'est vraiment, c'est ça, salaire, retraite, pouvoir d'achat, et on sort pas de ces revendications là. Donc j'y vais quand même. Mais des fois, ça me fatigue parce qu'il n'y a aucune alternative. Mais à côté, la tendance extrême, ce serait les colibris que tu as mentionnés, où tu vas te faire ta petite vie à la campagne, entre uniquement gens qui ont le capital économique et culturel pour faire ça, et en laissant complètement de côté la transformation sociale, ça devrait pouvoir marcher ensemble. Alors après, il y a peut-être les propositions qui tournent autour de l'atelier paysan, là, qui sont pas dénuées de sens autour de tout ça. Je ne sais pas si vous voyez ces choses-là. L'atelier paysan et la sécurité sociale d'alimentation. Mon avis n'est pas complètement fait là-dessus, mais il y a vraiment une recherche d'articulation. L'atelier paysan, c'est des gens, c'est une association qui promeut ce qu'ils appellent l'autonomie technologique des paysans. C'est ça ? Et c'est-à-dire qu'ils font, ils construisent des machines, ils construisent des agriculteurs viennent les voir et leur disent j'ai ce problème-là, et puis ils travaillent ensemble pour élaborer une solution technique au problème, et puis les plans sont en open source et ça resserre pour d'autres gens. C'est génial, c'est super, ils ont vraiment, c'est hyper enthousiasmant ce qu'ils font. Bon, ces gens-là qui font des choses très enthousiasmantes, ils ont fait, l'an dernier, ils ont fait un bouquin qui s'appelle « Reprendre la terre aux machines », et où ils disent, nous, on fait plein de trucs géniaux, Terre de Liens fait plein de trucs géniaux, la Fédération des AMAP fait plein de trucs géniaux, et on va vous dire un truc, c'est que ce qu'on fait, ça sert à rien. Parce que, pour prendre l'exemple de Terre de Liens, depuis 10 ans que Terre de Liens existe, il disparaît chaque semaine autant de fermes que ce que Terre de Liens a réussi à installer au cours des 10 années qui se sont écoulées. Et ils disent pas ça pour dire du mal de Terre de Liens. Ils se mettent dans le même sac. Ils disent, ce qu'on fait, c'est super. On fait de la soudure, on fait de la construction de plans, on rencontre plein de gens, c'est hyper dynamique. Le monde de l'agriculture paysanne, il se passe plein de choses. Mais on voit qu'on est une goutte d'eau dans un océan. Et donc, ils font un livre pour raconter ça et pour faire une série de propositions tactiques, stratégiques. Ils proposent de s'opposer à l'industrialisation de l'agriculture. Ils proposent de faire en sorte qu'il y ait plus de paysans qui s'installent dans les prochaines années. Ils proposent d'instaurer, pas tout à fait une taxe aux frontières, mais de faire en sorte que les pouvoirs publics instaurent un prix plancher auquel soient vendus les légumes, les productions agricoles en France. Qui fasse que si un produit est importé de Nouvelle-Zélande, il soit un truc fait en France. Et ils proposent aussi une sécurité sociale de l'alimentation. C'est dans le bouquin, ça, qu'ils le disent aussi, oui. Et c'est développé, ça, avec d'autres associations, des associations d'ingénieurs critiques, le réseau Salaria, je ne sais plus qui il y a dans ce collectif-là. Et le principe de la sécurité sociale d'alimentation, ce serait de faire qu'il y ait une sorte de redevance qui soit collectivisée, que sur les impôts, il y ait peut-être 100 euros par personne qui soit pris pour cette sécurité sociale d'alimentation, qui soit gérée à différentes échelles, par peut-être une caisse nationale, mais aussi des caisses locales, des caisses de quartier. Et que ça serve d'une part à faire qu'il y ait de l'argent qui soit redistribué pour aller consommer de la bouffe et à servir à investir dans certains projets, certaines entreprises, certains paysans qui seraient conventionnés avec ces caisses-là. Une histoire de mutualisation de moyens et il y a l'idée d'articuler ensemble une question globale. L'alimentation, ça concerne tout le monde. L'industrialisation de l'agriculture en France, ça concerne tout le monde. Une histoire de démocratie locale, faire décider les gens ensemble sur comment est-ce qu'on... dans quelle direction on va. Est-ce qu'en fait, nous, à l'échelle de notre ville, ce qu'on veut, c'est développer la production de patates, ou alors est-ce qu'on a besoin d'une usine de transformation de tel truc, quoi. Et faire travailler ces trucs-là ensemble. Moi, c'est pas un sujet que j'ai travaillé, mais je sais que là, du côté de l'atelier paysan, il y a des gens qui réfléchissent à ces questions-là et qui essayent de lier ensemble là, la construction d'initiatives concrètes, pragmatiques et en plus sur un terrain agricole, avec une volonté de transformation sociale et de ne pas faire abstraction du fait qu'il y a des gens qui sont dans la galère, quoi, en fait. Qui sont dans la galère et où il y a le nombre de gens qui passent par l'aide alimentaire, les Restos du Cœur et compagnie, là, ça a complètement augmenté, là, ça a explosé depuis 2 ans. Donc il y a énormément de gens qui sont réellement dans des problématiques où ils n'arrivent plus à se nourrir, quoi. Après, pour dire un truc peut-être un peu optimiste ou finalement, je ne sais pas si ce sera optimiste, mais moi, je te rejoins complètement sur l'idée qu'on peut faire des choses, même à l'échelle individuelle. En fait, plein de fois, on se laisse vraiment avoir par cette sorte de propagande comme quoi on n'a pas de prise sur la situation. Et que quand on essaye d'en avoir une, on se rend compte des fois que ça marche, quoi. Le peu d'initiatives militantes, enfin, je veux dire, même... un truc comme ça, là, écrire des textes, des brochures, un tract, enfin, c'est quelque chose qui nécessite pas de moyens économiques spécifiques. Enfin, si, un bouquin, un peu plus. Mais un tract que tu vas distribuer dans une manif, c'est quelque chose d'assez facile, ou un certain nombre de refus, refuser de faire certaines choses que ta hiérarchie ou les autorités veulent t'obliger à faire. Par exemple, il y a vraiment plein de choses qui sont possibles à faire. Et je trouve que tu as raison de réinscrire ça dans les mouvements qu'il y a ces dernières années. Moi, je ne sais pas si c'est 2011. Moi, j'ai l'impression... Enfin, moi, mon constat personnel, c'est que ça fait vraiment une vingtaine d'années depuis, en fait, le mouvement anti-mondialisation, qu'il y a quelque chose qui a vraiment redémarré et qui est de plus en plus gros, soit des mouvements à tendance insurrectionnelle ou qui réclament la chute du régime dans d'autres pays, soit des mouvements de contestation, ce qu'on pourrait appeler de désaffiliation, quoi, de gens qui refusent qui se reconnaissent plus dans ce qu'on leur demande de faire et qui se cassent, ou c'est le taux d'abstention aux élections, par exemple, quoi, hein. C'est vraiment plein de gens qui disent non, mais moi tout ça là, c'est pas pour moi, quoi. Et il y a vraiment quelque chose qui est engagé. Moi, pendant longtemps, j'étais assez sceptique sur le fait qu'on était dans une période révolutionnaire. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des périodes qui sont plus ou moins propices au changement social. Et moi, pendant longtemps, là, mon analyse, c'était qu'on était dans une période froide, où ce qu'on peut faire, c'est regarder, analyser ce qui se passe, ce qui s'est passé. Et là, j'avoue que depuis quelques années, mon constat, il a un peu changé. Hein, et on est dans un moment... alors, est-ce qu'on peut le qualifier de révolutionnaire? Je ne sais pas, mais on est dans un moment de crise structurelle. C'est-à-dire où toutes les crises viennent s'emboîter les unes dans les autres et se percuter. On vit des événements totalement improbable et imprévisible, enfin, comme la crise sanitaire, qui en fait n'était pas imprévisible, puisqu'un certain nombre de scientifiques avaient dit dans les années avant qu'il y avait quelque chose comme ça qui allait arriver, mais ça paraissait tellement incroyable que personne ne les croyait. Bon, hop, on vit une crise sanitaire, le confinement, le couvre-feu, le machin, incroyable. On n'a même pas le temps de finir la crise tranquille, qu'on se prend une crise militaire avec des sous-entendus comme quoi Poutine va peut-être balancer la bombe atomique sur l'Europe. Et en fait, une guerre comme ça se règle pas en 3 semaines, donc on est parti dedans pour plusieurs années. On sera encore dans cette crise-là avec les fameux problèmes d'approvisionnement en gaz ou en énergie, qu'on se sera ramassé une crise sur un autre niveau, sur un autre plan, éventuellement environnemental ou quoi. Tout ça avec les conséquences économiques pendant ce temps-là, parce que toutes les pénuries et les hausses de prix qui avaient commencé à cause du Covid, bah maintenant elles continuent à cause de la guerre, et puis en fait ce sera à cause de la prochaine crise. Et on est dans un moment, moi je crois, c'est un moment de basculement où il y a plein de choses qui sont possibles, le pire comme le meilleur. Hélas, pour l'instant, le plus probable, c'est le pire, c'est-à-dire en fait plutôt un écrasement des petites gens, une augmentation de l'exploitation et un raidissement autoritaire du pouvoir dans la version nationale populiste fascisant ou dans la version libérale autoritaire dégueu aussi, quoi. Mais en même temps, pour moi, on est vraiment dans un moment de bascule où il se passe des événements improbables et on a du mal à prévoir qu'est-ce qui va se passer sur un an, deux ans à venir. Et ben, je sais pas quoi. Moi, personnellement, mon analyse depuis quelques années, c'est vraiment que ça me donne envie d'affûter ma compréhension de ce qui se passe et de ce qui s'est passé pour réussir à intervenir de la bonne manière dans les événements qui se passent et qui déboulent comme ça sans qu'on l'ait prévu, quoi, d'un coup, quoi. Voilà. Donc, est-ce que c'est optimiste? Je sais pas.
On va peut-être rester là-dessus. Et merci à Anne-Marie, à Pierre Adora et à Gabriel.
Ouais, merci à tous et à toutes d'être venus.
C'était Rencontre avec Nicolas Bonanni autour de son livre Que défaire pour retrouver des perspectives révolutionnaires, paru aux éditions du Monde à l'envers.
Radio Livre.